Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Bonsoir. Les carnets du soir vous proposent ce séjour au Mexique, dont le cœur fut le sanctuaire Notre-Dame de Guadeloupe. Je vous invite à découvrir avec moi ce lieu et les différentes facettes de ce parcours. Au sortir de cette église, nous sommes en face du volcan qui fume encore. Et là, c'est le jour qui baisse. C'est impressionnant. J'ai l'impression d'entrer dans une histoire d'un autre monde, en tout cas dans l'histoire du monde, mais des siècles en amont. C'est tellement beau ce que je vois. Ce volcan qui fume encore. Je dis à mon collègue, mais est-ce que tu vois la même chose que moi? Il me dit oui. Alors j'ai dit, on voit une fumée qui sort, hein? Il me dit oui. Alors, c'est magnifique, le soleil est en train de descendre, mais des couleurs rosées s'accrochent à la fumée au sommet du volcan. Magnifique. Encore les yeux. Vous voyez? Le regard, les regards, constamment, nous pouvons admirer. Et nos yeux sont certainement faits pour admirer et contempler, pour que le cœur se réjouisse, qu'il y ait du contentement à l'intérieur de nous-mêmes et qu'ainsi nos yeux soient libres. Libres, libres de ce regard, de cette beauté qui nous est offerte, qui nous est donnée gratuitement. La gratuité de ce qu'on voit. Tout cela nous mène à la reconnaissance. Et cette reconnaissance, elle est envers le Seigneur qui a créé cette humanité, qui a créé ce monde que nous trouvons beau, ce monde si beau. Évidemment, il y a aussi des parties de cette humanité, de cette terre qui sont dures, ces déserts mortels. C'est vrai que c'est difficile. Mais encore là, il y a une sorte de mystère, mystère de beauté, dans tous ces paysages que la terre nous offre. Nous sommes un peu fatigués, ça a été une grande journée. Bon, l'histoire de justement quitter la maison des prêtres de Mexique, de Mexico. Alors, c'est encore un très, très long parcours. Se rendre à l'aéroport, prendre l'autobus, crevaison s'il vous plaît, attendre l'autre autobus, arriver à Puebla. Et le reste, nos visites, tout cela. Nous sommes un peu fatigués. Et là, nous traversons à la Brunante, ce qu'on appelle la Place des Artistes, patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est très beau. Ils ont le don des couleurs. Le don des couleurs, les maisons, les propriétés. C'est une ruelle piétonne. Alors, on traverse la Place des Artistes. Mon Dieu, que c'est beau. Des bleus vifs. On a des rouges aussi, on a de l'oranger, c'est vivant, c'est extraordinaire, toutes ces couleurs qu'ils ont sur ces maisons. Alors on traverse tranquillement cette place. Alors moi je vais m'arrêter à un endroit, je pense que je vais essayer de trouver un tout petit souvenir de rien, un souvenir de rien. Mais quand même, c'est mieux que rien, mais... Tous ces artistes sont là, sur le perron des portes. Ils attendent un client, ils attendent un acheteur. C'est peut-être pas la saison touristique, mais quand même, tout leur matériel est là, est offert. «
Les carnets du soir se poursuivent avec une lecture en continu du livre « L'impossible », parole énigmatique pour cette nuit noire, dont je suis l'auteur. Devant autrui, les moins riches et les pauvres ne nomment pas facilement leurs ennemis, mais ils les cachent si bien qu'ils les révèlent. Quel était donc le motif de cette réunion secrète? On s'était seulement dit les uns aux autres « Nous parlerons de nos ennuis ». Les superstitions trouvaient une terre fertile chez les gens simples du village. Ce qu'on redoutait, c'était qu'une malédiction s'abatte à nouveau sur le village. Le raisonnement était simple. Quiconque fait le mal appelle son châtiment. L'arrivée subite de la dame de la montagne les dérangeait. Celle qu'on avait tant admirée devait avoir commis une immense faute pour que la foudre l'ait ainsi frappée et ait détruit son château fort. Ne devenait-elle pas maintenant pour eux tous porteuse de malédiction? Leur admiration s'était envolée devant cette vieille femme devenue aveugle. Le charpentier avait écouté les doléances. Il n'était pas à l'aise. Il dit « Moi, mes affaires vont bien. Au contraire, l'ouragan a doublé mon revenu. » Ces mots déclenchèrent la fièvre des calculs. Sur la table, tous jetèrent l'effroyable monde de leurs dettes. Tous étaient au bord de la faillite, et on ne pouvait laisser l'insécurité gagner encore du terrain. Il fallait bien un coupable. Mais personne ne prononça le nom de la dame de la montagne. Et se levant, le charpentier dit qu'il n'était pas bon de parler ensemble de leurs ennuis. Les autres, le laissant partir, commencèrent à murmurer contre ce nouveau riche, un autre devant qui il leur faudrait se courber. Sans pouvoir nommer ouvertement le mal qui les rongeait, ils rentrèrent chez eux de plus en plus persuadés qu'il y avait un remède. Demain était aujourd'hui. Petit Jean attendait ce qu'il redoutait d'entendre de la dame de la montagne. Elle n'improvisait jamais lorsqu'il s'agissait de révéler quelque chose d'elle-même. Soudain, elle se mit à redire les fameuses paroles. Il écoutait.
« Morte l'étoile !» Long horizon bleu, horizon rouge, fil d'or se dessine, du trésor, rapide l'astre sort.
Petit Jean s'était approché du lit où l'intrigante dame de la montagne était étendue. Puis il lui demanda.
« Pourquoi ne dis-tu plus nuit noire ?»«
C'était le commencement, »
dit-elle. « Le commencement de quoi ?»«
Le commencement. »
Tourmentée, elle menaçait de revenir sur sa décision de la veille de se taire. Petit Jean ne parlait plus. Elle lui révéla ceci.
« Un jour, Madame de la Montagne me dit ceci. Après les 7 marches, peut-être verras-tu le noir des 7 nuits. »
Elle lui raconta que ce peut-être, glissé dans la troublante révélation, l'avait suivi tout au long de sa vie. Mais l'âge avançant, elle en était venue à croire qu'elle ne verrait pas ces nuits. Les marches, elle les avait durement montées. Elle savait tous les efforts qu'avait exigé l'escalier dans chacune de ces 7 marches. Puis elle continua en disant
« Tu sais, Jean, que ces 7 marches reviennent sans cesse dans notre montée. » Lorsque nous les avons franchis, nous savons le chemin. »
Petit Jean ne perdait aucune parole. La dame de la montagne avait donc appris par cœur ces paroles énigmatiques de la révélation des nuits. Toute sa vie, une secrète inquiétude l'avait gardée autour de ces paroles, mais l'âge avançait et elle avait trouvé sa paix dans le « peut-être » que sa dame de la montagne avait prononcé. Depuis, elle était demeurée avec la crainte du noir. Soudain, une torpeur envahit son regard blanc, et elle dit
« J'y suis, Jean. Les mots de la révélation me guideront désormais. Je suis toujours monté. Maintenant, je descends. »
Épuisée, elle se retrancha comme une bête apeurée. Petit Jean eut l'impression qu'elle parlerait encore. Doucement, il dit
« Nuit noire ?»
Puis, la bouche crispée, la dame de la montagne dit avec Petit Jean
« Morte l'étoile, long horizon bleu, horizon rouge, fil d'or se dessine, du trésor. Rapide, l'astre sort. »
Petit Jean était sorti. Il voulait changer d'air, aller voir ses moutons. Il se sentait irrité, et une sourde colère montait en lui. À qui pouvait-il bien être utile, tout ce mal qu'endurait la dame de la montagne? Quelle espèce d'ennemi rôdait autour d'elle pour la clouer ainsi sur cette horrible potence? Qu'étaient ces forces invisibles qui la harcelaient, lui arrachant la peau sur les os? Pourquoi vouloir détruire ce qu'elle avait réussi à construire pendant toute sa vie? Il y avait là quelque chose de diabolique. Toutes ces questions le survoltaient au milieu des bêlements insignifiants des moutons. Ces bêtes accrochées à lui n'étaient rien sans lui. Cela le dégoûtait. La mystérieuse voix mauvaise, entendue jadis dans la grotte, revenait le troubler. Puis, se dressant comme s'il eût connu le chemin de cette marche, il dit
« Non ! La vie est grande !»
C'était Les Carnets du Soir avec Denis Veilleux qui vous parle. Réalisation technique, Yannick Caron.